Tout paraît facile au cinéma. Cependant, pour obtenir ces images, il a fallu adapter le matériel, affiner les techniques, trouver des astuces nouvelles, toujours attendre et suivre patiemment l'animal, se dissimuler pour éviter de l'effrayer. Ainsi, pour filmer des oiseaux, nous utilisons un filet employé d'ordinaire par les militaires et les chasseurs. Il permet surtout de voir de tous côtés sans être vu. Nous employons un objectif de longue focale à mise au point rapide. Première difficulté, placer le sujet dans le champ de visée. Une mire, simulant le cadre pour l'œil gauche, aide l'œil droit à cadrer le plus rapidement possible les sujets mouvants. Le même filet, jeté rapidement sur l'arrière d'une voiture, prouve son efficacité, au moins pour la courte expérience des lièvres, pourtant très farouches. Le même procédé sera employé dans les étangs fréquentés par les rats musqués. Si l'on peut approcher sans trop de difficultés les huttes que ces rongeurs bâtissent dans les roselières, il n'en est pas de même pour surprendre leur comportement dans un milieu où ils peuvent disparaître au moindre bruit. Dans une forêt du Nord, survit une colonie de hérons. Pour les filmer, nous obtenons le concours des ouvriers de la ville qui se chargent d'abord de transporter plusieurs tonnes de matériel. Ils nous aident ensuite à monter une solide tour d'observation à la hauteur des chênes. L'opération a lieu en hiver, alors que les oiseaux n'ont pas encore regagné la héronnière. La hutte, couverte de filets, de branches et de roseaux, se dresse à une quinzaine de mètres du premier nid de hérons. Grâce au bon soin du forestier, la construction est entourée d'une clôture agrémenté de mise en garde. La première sans valeur, la seconde plus efficace. Dès que les oiseaux ont regagné les nids et avant que les feuilles ne nous empêchent de les voir, nous transportons et installons chaque jour le matériel de prise de vue. Du haut de ce perchoir, le regard s'étend loin dans la forêt que le printemps réveille. Dans les énormes nids de branchages, seuls des moineaux nous offrent un premier spectacle, que nous filmons en attendant. Et puis un jour, sur le nid le plus proche, méfiant, circonspect, mais déjà habitué à la présence de notre construction, le héron attendu apparaît enfin. C'est bien dans cette zone de nidification que nous pourrons voir les évolutions les plus variées. Ces images ne sont ralenties que deux fois. Il nous fallait des ralentis plus importants, tant pour l'étude du vol que pour l'analyse de l'essor et de l'atterrissage. C'est pourquoi nous avons installé une caméra à haute vitesse que nous avons fait fonctionner à 500 images par seconde, ce qui ralentit plus de 20 fois les mouvements pendant la projection. Le démontage s'effectue aussi discrètement que possible afin de ne pas perturber les oiseaux, alors en période de reproduction. Tout sera soigneusement récupéré. Notre passage n'aura pas laissé de traces et la héronnière n'aura pas souffert. Un jour, nous passons du milieu aérien au milieu aquatique. Dans les faibles épaisseurs d'eau, la caméra sous-marine est inadaptée. Nous avons alors construit une petite barque munie d'un hublot pour prise de vue rapprochée. L'appareil est fixé contre le verre et regarde le fond obliquement à 45 degrés. Conduit à la main grâce à une perche et maintenu horizontal par un flotteur qui annule le tangage, l'ensemble glisse régulièrement sur l'eau. La vie existe aussi sous la terre. C'est pour la surprendre que nous sommes venus dans cette sablière. Les insectes à filmer sont de petite taille. La précision est de rigueur. Nous disposons un support qui permettra des déplacements de l'objectif dans deux directions. De plus, une platine à crémaillère assurera la translation d'avant en arrière. La caméra est munie d'un objectif à soufflet qui facilite les allongements de tirage. Un petit hyménoptère fouisseur du genre Halicte creuse devant nous un nid qui s'enfoncera profondément dans la falaise de sable. C'est là qu'il entrepose le pollen pour ses larves. Pour ce genre d'exercice, les supports sont variés. Trois petits pieds permettent aussi de filmer à ras de terre. Voici même une variante au flanc d'un fossé. Dans ce trou, une abeille solitaire entrepose le pollen qu'elle aussi a récolté. Il a fallu creuser soigneusement pour trouver le nid et constituer une petite plateforme où l'appareil est disposé sur une rotule directement fixée à la platine mobile. Nous découvrons un œuf long d'un millimètre pondu sur la pâtée pollinique que l'abeille a formée dans son nid. Pour l'avoir récolté ce pollen, nous allons sur les bords d'un étang où fleurit la plante fréquentée, la lysimaque. Notre abeille est rapide et le vent, même léger, ajoute aux difficultés de suivre l'insecte et de mettre au point. De plus, la projection des bobines tournées nous réserve une surprise. La mécanique trop poussée afin d'obtenir des ralentis n'a pas résisté et a provoqué du filage. Nous parviendrons finalement à filmer nos petits acteurs, même en gros plan. Un autre cas se présente. Une glissière pour travelling miniature est installée d'une manière rudimentaire mais suffisante pour donner une idée de l'abondance des nids. Chacun étant signalé par un tumulus. Le travelling en gros plan est encore possible avec un tel dispositif par un mouvement de rotation indécelable à la projection. D'autres insectes fréquentent ce chemin, mais si rapide qu'une caméra légère à haute vitesse devient indispensable. Seule contrainte, l'alimentation électrique particulière et des accus encombrants. Des prises de vue à 200 images par seconde nous ont donné des ralentis intéressants de cet ammophile. Mais pour voir battre distinctement les ailes, il aurait fallu 6000 images par seconde. Un intermède. Des prises de vue faciles sur les chaînes d'une forêt méridionale. Ils portent curieusement des galles sphériques provoquées par de petits insectes, les cynips. Galles qui, à présent volent les cynipidés, deviennent le refuge de fourmis. Pour les étudier, on les fait passer dans des nids artificiels transparents. À nouveau, le cadrage ne dépasse pas quelques millimètres. La platine à crémaillère participe à la mise au point difficile. C'est ainsi qu'il a été possible d'étudier les relations antennaires de ces fourmis arboricoles. Mais les projecteurs disposés de la sorte, pourtant munis de filtres anticaloriques, apportent beaucoup de chaleur. À haute vitesse, il faut davantage de lumière. En conséquence, la chaleur s'accroît encore. Pour ne pas fausser les comportements, nous travaillons parfois en contre-jour. En disposant derrière les insectes et loin d'eux, un écran translucide de couleur qui subit seul l'échauffement des éclairages. Il constitue de plus un fond coloré pour les fourmis, vu ainsi en ombre chinoise. Le microscope optique propose une infinité de sujets mouvants variés. Il faut alors apporter beaucoup de soin à l'installation. Un tapis de caoutchouc évitera que les vibrations du moteur de caméra ne se transmettent au microscope et aux images. Et des charges relativement lourdes assureront la stabilité et l'inertie du montage. Après alignement minutieux des axes optiques, on prend soin de supprimer les reflets et les images parasites. La propreté de toutes les lentilles est contrôlée. En outre, seul l'arc électrique pourra fournir la puissance lumineuse recherchée à fort grossissement ou à haute vitesse. Grosse difficulté, le cadrage cinéma ne correspond qu'à une partie de l'image vue dans l'oculaire du microscope, d'autant plus petite que la caméra grossira davantage. Ces observations effectuées en contraste interférentiel peuvent être agrémentées de coloris variés. Nous avons le plus souvent recherché la finesse de résolution en utilisant une bande particulière des franges d'interférence. Les irisations sont alors totalement éliminées. Ici, un protozoaire cilié dont les vacuoles sont bourrées de bactéries chimiquement colorées. Sortons du domaine microscopique. Voici une autre installation construite autour d'un aquarium où évoluent des annélides marines, les Néréis. Une précaution, des cuves à eau placées sur le trajet des faisceaux lumineux filtrent les rayons infrarouges et évitent l'échauffement. De cette manière, nous avons pu enregistrer, d'abord à vitesse normale, la danse nuptiale des Néréis. Mais une analyse plus fine était nécessaire, ce qui a provoqué cette installation à deux caméras couplées. Afin d'opérer sur ces petits sujets mouvants avec une caméra dépourvue de visée permanente, nous avons couplé sur un socle à crémaillère une seconde caméra, celle-ci réflexe, préalablement cadrée et mise au point comme la première, sur une seule mire à la distance choisie. C'est l'ensemble de ce montage que l'on déplace pour mettre au point. Les deux caméras filment ainsi la même image, l'une à vitesse normale, l'autre à haute vitesse, ce qui donne de la même scène un ralenti fort utile à la compréhension des comportements. Nous assistons ici à l'émission d'ovocytes. Filmés à 200 images par seconde, les mouvements sont ainsi ralentis 8 fois environ à la projection. L'éclairage d'un aquarium pose toujours certains problèmes selon l'image à obtenir pour la compréhension des mouvements ou la mise en valeur des détails morphologiques. Comme précédemment, l'objectif doit être protégé des rayons lumineux parasites. Les déplacements rapides de très petits animaux provoquent une difficulté, les conserver dans le champ de visée. Pour les suivre plus facilement, nous avons utilisé ce dispositif, un mini-aquarium monté sur un plateau tournant. Dans ce cas, faute de place, une seule cuve à eau est chargée de refroidir tous les rayons lumineux. Ces procédés nous ont permis, entre autres, de photographier les comportements de plusieurs sangsues de nos régions. D'en observer une, couvant sa ponte. D'en suivre une autre, qui transporte ses jeunes. Et de surprendre cette extraordinaire dépose d'un cocon par une petite sangsue du nom de Piscicola. Ce cocon mesure à peine 1 mm. Beaucoup d'images de la vie nécessitent un ralenti pour les mieux comprendre. Pour d'autres, c'est l'inverse. Ainsi, le développement de colonies bactériennes est réalisé en laboratoire dans des boîtes de verre, dites boîtes de pétri. La température optimale et l'humidité peuvent être assurées couramment en plaçant ces boîtes en chambre thermostatée. Mais pour effectuer des prises de vue, ces nécessités nous ont conduit à construire un support particulier où toutes les conditions pouvaient être réunies. Culture en boîte de pétri ouverte. Étanchéité relative, mais suffisante, grâce à de la pâte à modeler. Température et humidité contrôlées. Dès que la boîte est préparée, l'eau à température stabilisée circule dans le serpentin. Un léger chauffage extérieur est assuré par une petite soufflerie. Le projecteur à contre-jour s'allume pour chaque prise de vue, commandé en synchronisme avec la caméra par un intervalomètre dont on règle les paramètres à volonté. C'est en accélérant 20 000 fois le phénomène que nous avons pu révéler, par exemple, l'évolution d'une bactériolyse. Durée réelle, 3 jours. Mais, si l'atmosphère de l'appareil est trop humide, des gouttes d'eau de condensation gâchent l'image. Si elle est trop sèche, la gélose de culture craque ou se détache en glissant. Ainsi, chaque sujet présente ses problèmes spécifiques, parfois imprévus. C'est aux artisans du cinéma scientifique de pallier les difficultés, d'imaginer les solutions que l'industrie du cinéma n'offre pas. Et si l'on peut parfois provoquer certains comportements animaux, il est impossible de diriger les acteurs, car il faut rester fidèle à la réalité, sans fantaisie et sans trucage. En biologie animale, la mise en scène reste du domaine de la fiction.